Bonsoir. Y a-t-il le feu? TF1 voit ses audiences baisser depuis ce week-end après la décision de Canal de ne plus diffuser ses chaînes. Alors on voit également Free qui pose un ultimatum. Orange qui menace. Va-t-il lui aussi, eh bien, arrêter de diffuser TF1 et ses petites sœurs, bien entendu. Vous savez, TF1 réclame de l'argent aux opérateurs pour pouvoir continuer à être distribué. Alors, qui aura le dernier mot? Qui va faire plier l'autre? Un bras de fer, donc, entre TF1 et les opérateurs. TF1 versus les opérateurs. Qui va reculer? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, c'est très surprenant ce bras de fer. On va essayer d'en comprendre les véritables raisons et l'issue justement eh bien de ce bras de fer. On va en parler avec l'un des acteurs, principal acteur bien entendu, Régis Ravanas, directeur général adjoint du groupe TF1. Il est en charge notamment de la publicité et de la diversification. Isabelle Vignon, directrice expertise média dans le groupe de communication et d'agence média Dentsu Aegis Network. Pascal Le Chevalier, président de WhatsApp, qui est une agence conseil de médias numériques qui effectue une veille du marché, des acteurs, des nouveaux médias numériques. Simon Tenenbaum, le monsieur média à la rédaction de BFM Business. Et puis Erwan Lenoine, consultant en stratégie dans le cabinet Altermann, professeur en droit à la concurrence à Sciences Po. Allez, souvenir, c'était hier soir, l'humour de Gilles Boulot, juste à la fin du JT de 20h.
Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Bonne soirée à tous, avec ou sans décodeur. Merci de votre fidélité. À demain.
Avec ou sans décodeur. Alors cette histoire, même le CSA s'en est mêlé. C'était tout à l'heure à la mi-journée, justement. Nicolas Curien, président par intérim du CSA. Il est avec Marie Valogne.
On a fait une offre de médiation. Pour le moment, on n'a pas été saisi dans ce sens. On peut aussi régler un différend si ce différend est porté devant nous, ce qui n'a pas non plus été le cas. Notre souhait le plus vif au CSA, c'est que ça débouche au plus vite pour l'intérêt du téléspectateur.
Voilà, l'intérêt du téléspectateur qui pourrait être privé, en effet, de TF1. Et d'ailleurs, tiens, Isabelle Vignon, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, justement? The Voice, c'était ce week-end, toujours premier, mais avec une perte de 934 000 téléspectateurs. Le journal de Gilles Boulot, qu'on a vu donc, eh bien, il y a quelques instants, le 20h, qui s'est largement incliné face au journal de la 2, Anne-Sophie Lapix, hein, 5 380 000 Français d'un côté, 5 810 000 Français de l'autre. C'est important, c'est-tu jamais vu, non?
Oui, alors c'est important, certes, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même attendre un petit peu plus de jours pour faire des analyses vraiment très construites et définitives. C'est vrai que le JT a perdu. Nous, on estime que c'est à peu près 300 000 téléspectateurs donc, qui sont partis donc, dus à cette coupure.
À cette coupure.
Voilà, uniquement. Après, il y a des programmes aussi qui restent très stables. Donc ça aussi, il faut le préciser. Donc, par exemple, le JT de Jean-Pierre Pernaut l'après-midi. Donc il y a des audiences aussi qui continuent de se maintenir. Donc ça dépend vraiment des tranches horaires. Mais c'est vrai que sur les 4 ans et plus, on observe à peu près des baisses depuis donc, le 3 mars. Des baisses entre 182 000 téléspectateurs jusqu'à 340 000 à peu près.
Régis Ravanas, c'est quoi l'ambiance chez vous? Panique ou pas après la baisse des audiences du week-end?
Alors vraiment absolument pas. Vous savez, c'est vraiment une ambiance de soutien derrière Gilles Pélisson. Et on a été agressé d'une manière unique. Ça s'est jamais produit qu'une chaîne soit coupée par un opérateur, quel qu'il soit. Et c'est au contraire un sentiment de fierté d'appartenir à ce groupe qui se bat pour faire les meilleurs programmes qui soient. Et en ce qui concerne les audiences, il avait tout à fait raison. Mais ce qu'il faut retenir aussi, si vous voulez, c'est que malgré ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 4 opérateurs sur 5 qui diffusent les chaînes du groupe TF1, eh bien TF1 reste de très loin la première chaîne d'Europe, avec pas loin de 20% d'audience, ce qui est gigantesque. Donc ça montre à quel point nos programmes sont fédérateurs. Mais je peux vous dire qu'il y a une ambiance de soutien et de cohésion au sein du groupe TF1 aujourd'hui, vraiment.
On va essayer de comprendre Simon Tenenbaum, Pascal Le Chevalier. Expliquez-nous l'un et l'autre pourquoi les opérateurs Bloctil, hein, on a Canal qui a coupé le signal, on a Free qui menace également, qui a posé un ultimatum. Orange, c'était Stéphane Richard dans le Figaro ce matin, qui laissait entendre, en tout cas c'est le Figaro qui donnait ces informations, qui laissait entendre qu'il pourrait aussi passer donc eh bien à des mesures de rétorsion. C'est quoi l'histoire?
TF1 a engagé des négociations il y a presque 2 ans maintenant pour obtenir une rémunération de la part de ses opérateurs. Jusqu'à présent, il y avait une petite rémunération qui était pour la reprise du replay notamment. Et TF1 estime que cette rémunération n'est pas suffisamment importante par rapport à la valeur que la chaîne apporte aux opérateurs qui eux-mêmes revendent via des abonnements. Et TF1 estime aussi qu'il peut apporter des nouveaux services aujourd'hui qui méritent une rémunération. Donc des services qui permettent par exemple de regarder le programme au milieu de la diffusion, de revenir au début du programme,
etc. C'était TF1 Premium, par exemple.
TF1 Premium, voilà, tout un bouquet de services. Et donc, voilà, il y a une hausse importante de cette rémunération qui est demandée aux opérateurs. Alors, x10, x6, etc.
Combien TF1 demande?
Au départ, il y a ce chiffre de 100 millions d'euros pour l'ensemble des opérateurs qui est sorti dans la presse. Je crois qu'ensuite...
Oui, qu'on n'a jamais confirmé.
Non,
ce que je voudrais dire, ce qui est quand même très important, c'est que, parce qu'il y a... Il y a un peu une polémique, mais la réalité, c'est qu'on est très proche d'un accord. Hein. On est très proche d'un accord.
Alors avec qui exactement?
C'est pour ça. On est très proche d'un accord.
Régis Ravanas, ce qui se passe, c'est que...
accord. On n'est pas loin d'un accord avec Free. Et d'ailleurs, on était très avancé avec Canal. Et c'est pour ça qu'on n'a absolument pas compris ce coup de force absolument hallucinant d'aller couper ce signal sur les 5 millions d'abonnés du groupe Canal. Dont, d'ailleurs, les abonnés de TNT-SAT. Je rappelle, enfin, c'est pas des abonnés d'ailleurs, hein, sont des gens qui sont dans des zones de couverture qu'on appelle les zones blanches, des gens qui ne peuvent pas recevoir la TNT. C'est une sorte de service public. Hein,
je comprends.
Des gens qui ne sont pas abonnés et qui ont quand même été coupés. Ce qui est absolument invraisemblable.
Simon Tenenbaum, continuez, parce que c'est vrai, quand on parle de TF1, c'est toute la galaxie des chaînes gratuites de TF1, c'est TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI, bien entendu. Canal+ a donc coupé juste avant samedi. Quid d'Orange? Qu'est-ce qu'on sait exactement d'Orange? Le Figaro disait ce matin que Stéphane Richard se disait prêt à couper TF1. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez enquêté?
On ne sait pas particulièrement, ça fait des semaines. Orange a déjà dit, en réalité, il y a plusieurs semaines qu'ils étaient prêts à couper. TF1 avait menacé aussi a demandé à Orange de ne plus diffuser ses chaînes. Voilà, bon, après, c'est le jeu des négociations.
Oui, vous savez, dans les négociations, chacun montre ses muscles, c'est voilà. Un peu de bonne guerre. Ça ne veut pas dire que les choses se font. Nous, on est très confiants sur le fait que le signal ne va pas être coupé chez Orange.
Vous discutez en ce moment et vous pouvez nous dire ce soir, a priori, le signal ne sera pas coupé?
Moi, je ne peux pas répondre à la place d'Orange. J'ai vraiment grande confiance dans le fait que nous trouvions un accord avec Orange très prochainement.
Et avec Free également, Free qui a envoyé ce matin une ultime offre de rémunération à TF1 pour diffuser ses programmes, faute de quoi, sous 3 jours, l'opérateur arrêtera de diffuser les chaînes. Comment vous y répondez à cet ultimatum de Free?
Je réponds que nous négocions...
6 millions et demi d'abonnés chez Free.
Absolument. Je réponds que nous avançons de manière extrêmement positive avec les dirigeants de Free et que je serais très étonné qu'il y ait une coupure chez Free. Maintenant, moi, je ne suis pas dirigeant de Free, donc je ne peux pas répondre à leur place. Mais il faut se méfier, si vous voulez, de ces jeux de négociation où chacun montre ses points forts. Il y a quand même un peu de comédia dell'arte là-dedans.
L'argument des opérateurs, c'est on nous demande de payer ce qui est gratuit sur Internet, Régis Ravanas.
Non, mais
est-ce que vous répondez
à ça? Nous, ce qu'on répond, c'est que bien sûr que notre signal, il est gratuit sur la TNT et pour les téléspectateurs. Ce qu'on ne comprend pas, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le reste de l'Europe, ce mouvement de changement de modèle de la télévision en France, c'est déjà passé en Espagne, au Portugal, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, dans toute l'Europe de l'Est. Donc si vous voulez, c'est pas qu'en France. Ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on dit, et c'est assez naturel, si un opérateur vend nos chaînes à un abonné, on demande une toute petite rétribution de quelques centimes par abonné. C'est pas insensé. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'impact pour les abonnés. On l'a bien vu, nous avons signé un accord avec SFR.
Alors justement.
La maison que vous connaissez bien.
Bien sûr.
Et nous avons signé un accord avec Bouygues Télécom. Il n'y a pas eu d'augmentation de l'abonnement. Donc c'est sans douleur pour le public.
Pour Bouygues Télécom, on comprend que ça soit bien passé donc avec TF1. Bien sûr, du côté des SFR Altice, quelqu'un me raconte ce qui s'est passé pour le bien Simon Tenenbaum. Simon, cet accord signé avec SFR Altice, donc, qui permettent donc aux 4 millions d'abonnés SFR finalement de continuer à recevoir TF1. Pourquoi SFR a signé et pourquoi les autres n'ont pas signé?
Il y avait une histoire de calendrier déjà, puisque c'était SFR qui était le premier à devoir négocier à l'issue de ces contrats précédents. Si on est arrivé au même blocage qu'on a aujourd'hui avec Orange, si mes souvenirs sont bons, à l'été dernier. Et puis voilà, il y a eu les mêmes menaces, etc., les tribunaux et tout ça. Et puis finalement, un accord a été trouvé au bout de plusieurs semaines, ça a été quand même assez long.
Bien sûr, un changement de modèle, c'est toujours compliqué. C'est nouveau, effectivement, de se dire que la télévision en France, elle va s'appuyer à la fois sur des revenus de publicité et à la fois sur des revenus de distribution. Encore une fois, c'est partout, quasiment partout, comme ça, en Europe déjà. Ça va être le cas demain en France. Et évidemment que c'est nouveau, évidemment que ça demande de l'explication, ça demande beaucoup de négociations, mais on y arrive.
Pascal Le Chevalier.
Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner qui a considérablement changé en France depuis 10 ans, c'est le poids pris par les distributeurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet, puisque la France est le premier pays d'Europe en matière de box, et aujourd'hui, enfin les chiffres du CSA l'ont montré, la diffusion via les box dépasse tous les autres modes de diffusion, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, vous aviez votre râteau, et puis vous receviez la télé, c'était gratuit, tout le monde était content.
Par exemple, quelle part de l'audience de TF1 est générée justement par ces box ou le satellite de Canal?
Aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement variables en fonction des opérateurs, et puis il faut se référer aux chiffres de médiamétrie, donc ça fait aussi partie de la cuisine interne de chaque chaîne que de donner les chiffres qui viennent par les box, par l'OTT, c'est-à-dire over the top directement sur Internet, et généralement, ces chiffres-là ne sont pas communiqués de manière très transparente, ou en tous les cas très officielle. On a les chiffres globaux, mais ils ne sont pas distribués en dehors des agences et des professionnels.
Je vous pose la question, Régis Ravanas, c'est quoi la part de l'audience de TF1 générée par ces box?
Par les opérateurs, ouais. C'est à peu près la moitié de l'audience.
Moitié. Donc, avec une part évidemment qui augmente, bien sûr.
Oui, avec une part qui augmente, effectivement.
Et vous n'intéressez pas forcément se fâcher avec les opérateurs.
Oui, et le deuxième point, c'est que ces opérateurs, ces distributeurs, aujourd'hui considèrent qu'ils ont un pouvoir énorme, en particulier vis-à-vis des chaînes de télévision, qui, elles, font leur business sur des recettes publicitaires, en tous les cas pour les chaînes gratuites, parce que sinon c'est de l'abonnement. Et ces distributeurs ont pour habitude de valoriser, lorsque les chaînes sont payantes, un certain nombre de centimes, effectivement, comme le dit Régis Ravanas. Sauf que ces centimes, si je prends l'exemple de 5 millions d'abonnés, que vous payez 25 centimes par mois par abonné, à la fin de l'année, ça fait 20 millions d'euros. Voilà, donc ça va très très vite. Et c'est là où je pense que la discussion tourne sur qu'est-ce qu'on met dans ces 25 centimes. Est-ce que le start-over, est-ce que le replay valent ce prix-là?
Eh ben oui, est-ce que ça vaut ce prix-là? Tiens, Erwan Lenoine, vous, professeur consultant en stratégie quand même, on parle de 25 centimes. Il y a eu une action extrêmement violente de la part de Canal de couper le signal, donc, vendredi à la veille du week-end. Il y a ces menaces de Free, de Orange également. Tout ça pour ça? On parlait de montrer ses muscles. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement? On a du mal à comprendre. J'étais au téléphone tout à l'heure avec un chef d'entreprise qui revenait sur la bataille Trump vis-à-vis du reste du monde sur l'acier et l'aluminium. Ils me disent ce qui se passe entre Bolloré et Pélisson, mais c'est beaucoup plus violent. Qu'est-ce que vous en dites?
Je dirais pas violent. Je pense que c'est symboliquement très fort, mais violent, je sais pas si c'est le bon mot. D'abord, je pense que le secteur de la télévision, comme d'autres secteurs de la distribution, on pourrait parler de la distribution alimentaire, c'est pas des secteurs où il y a beaucoup d'enfants de cœur. C'est des gens qui ont l'habitude de faire du business, et c'est pas du tout, c'est pas du tout pour moi une critique. C'est-à-dire, faut pas être naïf. C'est des gens qui font business, qui sont rompus aux affaires, et pour lesquels un sou est un sou. Et à mon sens, ils ont raison. Parce que d'abord, ils sont dans un marché en mutation. Vous le disiez tout à l'heure, un marché où les modèles traditionnels sont mis à mal. Il y a une concurrence nouvelle, il y a des modes de distribution nouveaux. Et donc, on est dans des entreprises, que ce soit TF1, Canal+, M6 et autres, qui n'ont pas un marché spontanément en croissance devant eux. Et s'ils ont de l'argent à investir, il faut que ce soit pour eux. Et je pense que TF1, son idée de se dire que nous, qu'ils ont besoin d'argent pour rester compétitifs. Canal se dit la même chose en disant, moi, si j'ai de l'argent à investir, je vais plutôt l'investir dans autre chose que dans donner de l'argent à TF1. Donc, on a là un modèle, je pense, qui est une confrontation, une négociation qui est forte. Et il y a évidemment des jeux de position qui sont symboliquement très forte, je n'aime pas violent parce qu'on a l'impression que c'est la guerre, je crois pas que c'est le cas. D'ailleurs, vous dites que vous continuez de vous parler. Mais tout ça est d'autant plus symbolique qu'on est dans un moment où l'industrie de la télévision et des médias est en pleine mutation. Que, effectivement, vous nous l'expliquiez, monsieur, TF1 veut changer son modèle. Canal+ a subi des mutations a organisé des mutations récentes qui sont très importantes dans son organisation, dans son mode de distribution aussi. Tout le secteur est aujourd'hui dans une phase de transition et je pense que cette transition attise évidemment les inquiétudes, le souci de faire attention effectivement à son investissement parce que derrière les conflits entre TF1, M6, Canal+ et autres, il y a Amazon, il y a Netflix, il y a tous les nouveaux opérateurs qui viennent et qui, eux, pour le coup, ne sont pas non plus des enfants de cœur.
Et la fin justifie les moyens ?
Oh, je crois vraiment pas qu'il faille exagérer. Pour moi, c'est un jeu de négociation dans un secteur où, effectivement, les relations entre opérateurs sont généralement assez intense, mais à nouveau, prenez la distribution alimentaire, je pense que pour le coup, la télé, c'est des enfants de cœur à côté de la distribution alimentaire.
Ah, carrément.
C'est sûr.
Régis Sardanas, TF1.
Non, juste pour. Ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, nos destins sont liés, opérateurs, télécoms, opérateurs satellites et diffuseurs, éditeurs de chaînes. Nos destins sont liés parce qu'il faut absolument qu'on propose des services nouveaux aux téléspectateurs. Parce que sinon, ils vont aller ailleurs.
Mais qui sont déjà là, ces services nouveaux.
Déjà là, en partie. On veut les améliorer. C'est aussi un des enjeux de l'offre que nous faisons dans TF1 Premium. C'est pouvoir permettre aux gens, par exemple, de stocker dans le cloud le programme, de pouvoir revenir en arrière dans un programme quand on le regarde, d'enrichir la catch-up avec de nouveaux programmes. Voilà, c'est aussi cet enjeu-là qu'on doit adresser avec les opérateurs. Donc oui, en ce moment, il y a des négociations, mais derrière, en fait, notre objectif, ça va être de délivrer un service de télévision meilleur pour le téléspectateur.
Isabelle Vignon, TF1, a-t-il intérêt à s'aliéner les opérateurs, justement ?
En fait, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc vous dites que c'est pas vraiment violent pour le téléspectateur. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même une espèce d'incompréhension, c'est-à-dire que le téléspectateur a l'impression qu'il ne paye pas aujourd'hui pour recevoir la télévision. Or, effectivement, 57%, on va dire, des Français reçoivent la télévision donc via des box ADSL ou d'autres services. Mais en fait, ils le payent via leurs abonnements
opérateurs,
internet, téléphone mobile et donc la réception de la télévision, et y compris donc maintenant ces services enrichis auxquels les téléspectateurs se sont fort habitués, c'est-à-dire très très vite. Donc c'est vrai que d'un coup, ils ne comprennent pas, et ce qui est tout à fait normal quand on voit le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux. Enfin, nous on a regardé sur ces 4 jours seulement, il y a quand même 122 000 réactions et qui ont été fortement relayées et plutôt négatives.
Et qui disent quoi ? Est-ce que les gens prennent plutôt le parti de TF1 est-ce qu'ils comprennent ou... C'est quoi ?
On va dire qu'à 65%, c'est plutôt neutre, c'est-à-dire que l'info est juste relayée et commentée de façon neutre, mais il y a quand même une 25%, on va dire, qui est quand même plutôt négatif. Donc, c'est-à-dire que les gens, effectivement, ne comprennent pas et ont surtout peur, ce qui est normal, qu'on leur fasse payer cette télévision plus chère, pour laquelle ils croient qu'elle est gratuite alors qu'elle ne l'est déjà pas en réalité, et que les services donc qui sont déjà proposés et fort maîtrisés, encore une fois, c'est rentré dans les habitudes d'envoyer son start-over pour revenir au début du programme, d'aller consommer des programmes en replay. Je rappelle aussi qu'il y a certains programmes quand même, notamment de télé-réalité ou voire même de divertissement ou même de séries qu'on a vu sur le service public qui étaient mal diffusés, c'est-à-dire trop tardivement, comme Mister Robot par exemple. Donc on a certains programmes qui sont davantage consommés en replay que sur le live. Donc ça montre bien aussi que les habitudes ont changé. Donc le modèle économique, effectivement, doit changer. Alors, est-ce que ça nécessite ce rapport de force ? Honnêtement, je pense pas. Et je pense que c'est tout à fait normal que le téléspectateur il soit perdu et que ça réagisse quand même assez mal. Et que nos annonceurs aussi, forcément, sont inquiets.
Alors, Erwan Lohain et Pascal Le Chevalier.
Deux remarques. D'abord, je pense que... Vous avez probablement raison, vous connaissez mieux les chiffres que moi. J'ai quand même l'impression que l'abonné Canal sait qu'il paye et qu'il paye un prix qui est quand même réputé relativement élevé. C'est d'ailleurs pour ça que Canal a
Canal
changé
a
ses
perdu
offres.
Aussi pas mal d'abonnés.
Oui, mais voilà, mais
donc ça montre bien qu'eux-mêmes sont en recherche d'un nouveau modèle.
Mais certainement, et c'est ma deuxième remarque, c'est que je pense que les relations sont tendues, mais pas spécifiquement sur cette question. C'est-à-dire les relations sont traditionnellement assez tendues dans le secteur, comme elles le sont à nouveau dans plein d'autres secteurs. Mais effectivement, effectivement, on est dans un secteur qui est en pleine mutation. Je vais prendre un exemple très simple. Je pense que mes grands-parents payaient déjà la télévision. Moi, j'ai une box. Mes enfants, qui sont encore à l'école maternelle, regardent des dessins animés sur YouTube. Voilà. Et donc, ils ne regardent plus la télévision. Et la mission, en tout cas, la question pour TF1, c'est de dire comment je vais faire pour que ces enfants, demain, regardent la télévision. Comment je vais faire pour ceux face à la concurrence de Netflix et autres. Et c'est les canals est dans les mêmes problématiques.
Alors, un petit mot, Isabelle, et juste après, Pascal Chevalier, après.
C'est pas tout à fait vrai non plus que les jeunes ne regardent pas la télévision.
Faut
faire attention à ça. Moi aussi, j'ai des jeunes chez moi, mais aussi que je gère dans mon équipe. Et quand je leur dis, vous regardez la télévision, on est sur Internet.
Oui, mais ça se disperse.
Et sans donner qu'ils sont
ils pas
forcément
pas le téléviseur, mais ils regardent la télévision.
Traditionnel, mais ça reste du contenu télévision.
Oui, tout à fait. Il y a un chiffre très précis, 81% des téléspectateurs 4 ans et plus regardent la live TV, donc la télévision en direct, et ça tombe à 53% chez les 15-34. Donc on voit bien que la live TV telle qu'on la connaît sur le téléviseur a été divisée par deux, puisque le reste du temps, ils font autre chose, dont effectivement regarder des programmes délinéarisés, en particulier le replay, sur ordinateur, tablette et écran de téléphone mobile.
Et c'est d'ailleurs pour ça que les chaînes investissent dans des programmes de direct, comme le sport, comme les grands shows, parce que ce sont des spectacles, des programmes qui sont intéressants parce qu'on les regarde en direct.
Oui, mais pas seulement, ils investissent aussi beaucoup, et je trouve que les chaînes, y compris M6 et le service public d'ailleurs, ils sont plutôt assez créatifs en matière de création de séries qui leur sont propres, donc pour pouvoir en avoir évidemment les droits et pouvoir les exporter, et certaines donc s'exportent quand même très très bien, mais aussi justement pour pouvoir les diffuser en replay, puisque de plus en plus de séries, donc il n'y a pas effectivement que le sport ou l'information qui sont, on le dit pas suffisamment, mais des programmes quand même extrêmement fort, puissant sur le live, mais aussi extrêmement fédérateur. Donc c'est vrai qu'il y a une baisse d'audience sur The Voice. En même temps, on ne peut pas tout de suite en tirer. Donc,
incriminer.
Voilà. Il y a des baisses d'audience aussi. Il y a eu des baisses d'audience récemment sur d'autres programmes. Cette coupure de canal n'en est pas la seule responsable. La télévision est de plus en plus morcelée en termes de consommation et donc de part d'audience. Donc ça, c'est une vraie réalité. C'est tout à fait normal que tout le monde recherche ce business model idéal, mais il faudrait qu'on le trouve vite, parce que c'est un marché extrêmement important, enfin, pour le consommateur, mais aussi pour la publicité, les annonceurs, enfin, c'est économiquement, c'est
le business, le modèle. Une fois qu'un accord sera trouvé, si un accord est trouvé justement, les opérateurs vont-ils accroître ou pas, peuvent-ils accroître ou pas le prix de leur abonnement? Tiens, chez SFR Altice, qu'est-ce qui s'était passé justement à l'issue? Puisque c'est le seul finalement qui a concrétisé, qui a conclu avec TF1.
Non, il y a Bouygues Télécom aussi.
Bouygues Télécom, pardon.
C'est important. Faut beaucoup.
Vous avez raison, mais comme c'était dans la maison.
Je peux vous répondre, pardon. Ah oui. Il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs. C'est quand même très important, parce que comme c'est un peu une crainte qui est agitée, il n'y a rien eu. Et ça, c'est quand même la vérité, puisque ça s'est passé il y a 6 mois et on a derrière nous finalement l'expérience.
Pardonnez-moi d'avoir oublié Bouygues Télécom, en effet.
Alors, faut se méfier aussi sur le prix des offres ADSL ou fibre. Puisque le prix composite que le téléspectateur paye, au final, il y a de l'internet, de la télévision, etc. Si on fait un tout petit flashback sur il y a quelques mois ou quelques petites années, les bouquets de télévision, donc entre 200 et 300 chaînes, étaient valorisés dans le tarif des fournisseurs d'accès internet à 5 € pour des raisons de TVA. Et donc pour le téléspectateur qui regardait sa facture, il disait mais les chaînes ça vaut rien finalement. Mais ça c'est des habillages, on va dire presque fiscaux, qui ne traduisent pas la véritable valeur des contenus. Par contre, je pense que ce qui est très très important pour un groupe comme TF1, c'est le rapport de force qui existe avec les 4 opérateurs qu'on a cités, ne serait-ce qu'en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, dans le monde média, le chiffre d'affaires de TF1, Régis l'a rappelé, TF1, première chaîne d'Europe, etc., mais c'est que quelques 2 milliards d'euros. Un groupe comme Orange, aujourd'hui, pèse plus de 40 milliards. Et donc, le vrai business, le vrai enjeu pour TF1 aussi, c'est peut-être pas les 100 millions d'euros ou les 80 millions d'euros, mais c'est de dire, c'est quoi la prochaine étape? C'est comment va-t-on continuer à faire grossir le chiffre d'affaires avec des diversifications? Je rappelle qu'il y a quelques années, l'objectif, c'était de faire 50% du chiffre d'affaires sur les diversifications. Donc, il faut aller chercher de nouvelles activités, dont celles dont nous parlons aujourd'hui. Mais il y a peut-être d'autres choses qui n'ont pas été faites et qu'aujourd'hui, il faut essayer de rattraper le temps perdu. Et ce qui rend les discussions encore plus crispantes.
Ah, et d'où cet investissement, est-ce qu'il peut se rentabiliser dans ce rapport de force, donc avec les distributeurs?
Il y a un point important que je voudrais souligner.
Régis Favanas, CFA, après Simon.
Pardon. C'est qu'on a fait justement une étude. On voulait savoir quelle était la valeur perçue par les téléspectateurs lorsqu'ils sont abonnés à une box. On a fait faire ça par une entreprise qui s'appelle Sorgem, qui est une entreprise qui fait des études, donc une entreprise tout à fait neutre. Et elle a interrogé 1500 personnes. Ces 1500 personnes ont dit, en moyenne, nous payons 40 euros, elles sont toutes abonnées, 40 euros dans notre abonnement Triple Play. Et on leur a demandé, quelle est, selon vous, la valeur de la télévision que vous recevez, la télévision en clair, hein, donc TF1, M6, France Télévisions. Les gens ont répondu 13 euros. Donc 30% de la valeur du triple play. C'est considérable. Donc les gens, en réalité, ils la payent déjà, la télévision. C'est ça.
Ils ont la conscience, en effet, que ça a une valeur, en effet.
Voilà, ils ont une conscience que ça a une grande valeur.
Bien sûr. Simon Tenenbaum.
Oui, non, sur les télécoms, effectivement, on n'imagine pas une hausse des prix immédiate, une répercussion, etc., parce que c'est un secteur qui est très concurrentiel, évidemment. Les tarifs ne bougent pas. On réfléchit à deux fois avant de bouger ces tarifs dans la téléphonie. Par contre, c'est une tendance de fond chez tous les opérateurs télécoms d'essayer d'enrichir leurs offres par du contenu télévisuel pour faire augmenter leurs revenus. Voilà, on en est aussi là à des tentatives. Le modèle n'a pas forcément été trouvé, mais c'est clairement quelque chose que tous les opérateurs veulent faire. Et le fait que SFR notamment ait signé avec TF1, SFR qui est le groupe qui a le plus d'ambition dans les contenus, il y a évidemment une logique entre les deux, puisqu'on imagine que progressivement, au cours des prochaines années, les opérateurs télécoms vont tenter d'augmenter leurs revenus via la vente de chaînes de télévision.
Juste encore un mot, et puis après on verra comment ça peut évoluer, qui pourra céder. Vous nous consacrez encore 5 minutes, Régis Ravanas, juste après la pause dans un instant. Simon, il va nous quitter. M6, il n'y a pas eu de blocage avec M6, ou M6 s'est montré moins gourmand dans la négociation que TF1? On n'entend pas parler de M6.
C'est vrai qu'on parle depuis le début pas mal du débat de principe sur est-ce que TF1 doit être rémunéré par les opérateurs télécoms. En réalité, le débat de principe, on voit qu'il n'y a pas un tel blocage, puisqu'effectivement, M6 a réussi à signer avec tous les opérateurs à l'exception de Free. Donc, bon, on entend beaucoup d'arguments sur le principe, est-ce qu'il faut être rémunéré ou pas, est-ce que c'est normal. On a aussi l'impression, par rapport à l'exemple d'M6, qu'on est plutôt sur un blocage uniquement de prix. Parce que sinon, on aurait pu imaginer des recours juridiques sur le principe de faire payer pour une chaîne gratuite, etc. A priori, M6 a obtenu relativement facilement ce qu'il voulait. Après, effectivement, les multiples d'augmentation demandées par M6 étaient moins importants que ceux demandés par TF1.
Ouais, un point peut-être là-dessus, parce que c'est quand même un sujet important, puisque effectivement, M6 a signé avec 4 opérateurs. Je peux vous dire que dans quelques jours, on aura signé, nous aussi, avec la majeure partie des opérateurs. Mais bon, peu importe. Il est vrai que le groupe TF1 demande plus d'argent que le groupe M6, mais le groupe TF1 investit 1 milliard d'euros dans ses programmes, quand le groupe M6, c'est 450 millions d'euros. Donc, ça n'est pas du tout les mêmes investissements. C'est pas du tout les mêmes... Les programmes de M6 sont évidemment de très grande qualité.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, M6 a eu des raisons d'être moins gourmand parce qu'ils ont des besoins moindres.
Absolument. Les zones de financement ne sont pas les mêmes.
Simon.
Quand on a la Coupe du Monde qui coûte une fortune absolue, si vous voulez.
Échéance importante. On verra justement de quelle manière, justement, cette Coupe du Monde, elle a une incidence, justement, sur ce bras de fer actuel. Oui, Simon, toujours un mot, je vous ai coupé.
Non, comme le mouvement est inédit, le problème c'est que les multiples, on les connaît pas encore, il faut les définir. Effectivement, TF1 qui a par exemple historiquement une prime au leader sur ses recettes publicitaires, etc., comment est-ce qu'on la calcule par rapport à M6? Est-ce qu'on fait un ratio exact, ou est-ce que TF1 mérite d'avoir un bonus parce que c'est le premier groupe de télévision payante, c'est là-dessus qu'il y a sans doute eu qu'il y a des débats en ce moment.
Dernière question que je vais vous poser, Régis Ravanas, donc de TF1, y a un risque ou pas pour TF1 de perdre de l'audience si ça dure? Combien de temps vous donnez justement pour conclure? Combien de temps vous, TF1, vous allez pouvoir tenir sans Canal et peut-être sans les autres? Même si vous nous dites, bon, ça va être signé dans quelques jours.
Canal, je ne sais pas répondre si ça va être signé dans quelques jours.
C'est parce que Maxime Saada, il est clair, hein, il est ferme. Il dit, il est hors de question de rétablir la diffusion de TF1 à ses abonnés tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Voilà.
Je rappelle que TF1 a été absent de CanalSat pendant des années. Hein. C'était entre 2006, hein, entre 1996 et 2006.
Avant, oui, parce qu'il y avait TPS qui le diffusait, justement.
Mais c'est pas, c'est pas
là, il voit chez TF1 le sentiment d'une toute puissance. Voilà. Il n'est pas prêt de capituler.
Vous savez, comme le disait Pascal Chevalier, on est une petite entreprise comparée aux mastodontes des télécoms.
Ouais, notamment, vous avez le rapport Orange, de force, Pascal lui disait, 2 versus on est 40 milliards.
On est plutôt le David, si vous voulez, face à Goliath. Mais l'objectif de tout le monde, et je pense aussi de Canal, c'est de trouver un accord, parce que c'est pas l'intérêt des téléspectateurs d'avoir des zones d'ombre en France, voilà, ni pour Canal ni pour TF1. Donc je suis sûr que je sais que nous trouverons des accords avec Orange et Free, je suis très confiant là-dessus, et avec Canal, j'espère qu'ils reviendront à la raison.
Et le mondial de foot dans 100 jours exactement, Régis Favanas. Ça a une incidence quelque part. Il faut boucler absolument avant la Coupe du Monde, dont TF1 a acquis les droits pour la France. Bon, mais le foot va vous donner l'avantage quelque part à TF1.
Non, mais on espère vraiment que ça sera fini avant le foot. On n'imagine pas que la Coupe du Monde puisse ne pas être vue par l'ensemble des Français. Mais vous savez, on parle beaucoup du foot parce qu'évidemment c'est un événement assez extraordinaire. Mais un événement comme celui de vendredi prochain, c'est-à-dire les Enfoirés, c'est le programme le plus vu en France, à part l'équipe de France pendant une Coupe du Monde.
10 millions 6 hein, l'année dernière, et le premier programme donc devant toute télé confondue. Donc 10 millions 6 téléspectateurs. Enfin, il n'y a aucun média aujourd'hui, aucun support média qui réunit autant de téléspectateurs en une seule et même soirée. Donc c'est vrai qu'après, on focalise sur des baisses de JT, etc. C'est vrai, il y en a certaines et il n'y en a pas sur toutes les tranches horaires. D'ailleurs, ce n'est pas le cas non plus pour toutes les chaînes du groupe TF1. Hein. Quand on regarde aussi plus finement, il y a des disparités hein, entre TFX, TMC, bon, etc. Quotidien, effectivement, a perdu un peu. Mais donc là-dedans, c'est vrai qu'un programme tel que Les Enfoirés, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas d'accord trouvé avant.
Accessoirement, c'est généreux. Ça serait un mauvais signal envoyé.
Ça serait un signal épouvantable. Épouvantable. C'est le plus beau programme de l'année en France. Voilà, le programme le plus généreux, le programme le plus vu. Et dont une partie des Français recettes, ne pourraient pas le voir. Et on espère
et dont les recettes publicitaires, en plus, sont données à une œuvre.
Encore une fois, on n'a pas demandé à ce que nos programmes soient coupés. Hein. Nous, on se sent plutôt victime qu'autre chose de cette affaire. On négocie avec tout le monde et personne n'a coupé à part Canal. C'est quand même important.
Ça. Bon, on va continuer dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, donc à la télé, à la radio. Je remercie Régis Ravanas de nous avoir consacré du temps, le directeur général adjoint du groupe TF1 en charge de la publicité, de la diversification. Simon Tenenbaum, à bientôt également. Et puis Isabelle Vignon, Pascal Le Chevalier, Erwan Lenoine, j'ai encore 1000 questions à vous poser. À tout de suite, toujours sur ce dossier. Justement, on verra avec vous, Erwan Lenoine, ce que ça illustre de façon générale dans les rapports entre clients et fournisseurs, la télé, mais au-delà. À tout de suite sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, on continue encore pendant quelques minutes justement cette bataille entre TF1 et les opérateurs. Qui va reculer? Tiens, en fait, on entendait Régis Ravanas plutôt... Allez, il croit en tout cas à ce qu'on trouve un accord rapidement. Il ne peut pas imaginer que Les Enfoirés ne soient pas diffusés vendredi soir sur TF1. Qui fera plier l'autre, Erwan Lenoine, dans cette histoire? Qui va gagner? Qui va perdre?
Écoutez, si je le savais, je crois que j'aurais assuré le business pour mon business pour quelques mois. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je pense que chacune des parties a de bons arguments. Chacune des parties est forte. Chacune des parties et j'insiste dessus parce que TF1 nous explique qu'ils sont faibles parce qu'ils sont effectivement faibles par rapport à Orange. Mais enfin, TF1, c'est pas que TF1. C'est un groupe industriel très important. C'est pareil pour Canal+. Donc c'est deux mastodontes français qui se combattent et c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette symbolique. Je pense que ça illustre à quel point l'un et l'autre ont besoin de l'un comme de l'autre. TF1 a besoin de Canal pour être diffusé. Canal a aussi besoin de TF1. Mais tout ça est une question de mesure. Et aujourd'hui, un groupe comme l'autre sont dans une situation comme je vous disais tout à l'heure, ils ont des priorités d'investissement qui sont peut-être pas de donner de l'argent à leurs concurrents, diffuseurs, etc.
Pascal Le Chevalier, avec nous, président de WhatsApp, qui est une agence conseil en médias numériques.
Je crois qu'on est arrivé à un point où le TF1 cutting, qui était le fait de couper TF1, était porté sur la place publique quelque part aussi pour prendre le téléspectateur à la fois en otage et en arbitre. Va avoir des conséquences, ça c'est inéluctable. Je pense que quoi qu'il arrive, il y aura un accord parce que le temps va faire son effet, la négociation, chacun va faire le bout de chemin nécessaire, indispensable. Mais si on se projette à plusieurs années, le risque il est quand même, je pense, beaucoup plus sur TF1 parce que les opérateurs de télécom vendent aujourd'hui dans leurs offres triple et quadruple play tout un tas de services qui quelque part se complémentent les uns les autres et que dans l'absolu TF1, on peut aussi le regarder par exemple si on est abonné à la fibre, on peut le regarder sur son écran d'ordinateur avec MyTF1. Donc on n'est pas complètement sevré, on est sevré de TF1 sur le téléviseur mais pas sur les autres terminaux. Et d'ailleurs TF1 le sait et il suffit de regarder sur Twitter la promo pour aller regarder les émissions directement sur MyTF1, c'est déjà en route. Donc ce rapport de force aujourd'hui, je pense que vraiment stratégiquement, il n'est pas à l'avantage de TF1. Ouais. Donc après, on a bien vu l'humilité de Régis Ravanas, parce qu'il sait pertinemment aujourd'hui qu'il n'a pas forcément complètement le manche. Et puis TF1 vient d'une position de leader absolu du marché, et c'est vrai que on peut parler avec de la partie audience qui sur 10 ans...
Isabelle Vignon qui va prendre la parole.
Exactement, hein. qui s'est effritée parce que le monde change. Ça ne touche pas la qualité des programmes, simplement c'est le téléspectateur qui change ses habitudes et qui de fait que les audiences s'effritent mois après mois et année après année.
Et Isabelle Vignon, directrice expertise média chez Dentsu Aegis Network, les opérateurs et les chaînes ont besoin l'une de l'autre, hein. TF1 a besoin aussi des opérateurs, les chaînes de télévision elles cherchent à davantage contrôler leur distribution, mieux connaître leurs consommateurs individuels pour mieux cibler leurs offres. La publicité, ce que les opérateurs savent faire, puisqu'ils savent à tout moment qui regarde, pour l'instant, à la télévision, on ne sait pas toujours qui regarde à tout moment.
Si, alors la télévision avec le Mediamat national quotidien, on sait quand même qui regarde. Maintenant, le Mediamat est 4 écrans.
Est-ce que c'est aussi fin que ce que les opérateurs peuvent justement savoir de leurs clients?
Bah, les opérateurs, en tout cas, via les box, derrière la box, ils savent pas quel est l'individu du foyer qui regarde la télévision. Donc ça, les opérateurs le savent pas. Hein. Après, ils peuvent faire des regroupements, on va dire, avec la téléphonie mobile. Mais en termes d'audience, maintenant, on a une mesure quand même 4 écrans avec médiamétrie, donc qui va prendre en compte à la fois donc l'écran traditionnel du salon, le mobile, la tablette et l'ordinateur. Et aussi le linéaire, donc c'est-à-dire ce qui est diffusé en live, l'audience live, à J+1, et puis en consolidé, c'est-à-dire à J+8, et y compris la catch-up. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses encore qui sont tout à fait perfectibles en termes de mesure de l'audience, c'est-à-dire que, par exemple, si on passe par des applis ou des choses comme ça, c'est pas forcément encore toujours très très bien mesuré, et notamment en mobilité. Mais je pense qu'à terme aussi, il faut s'interroger sur une mesure peut-être un peu plus passive, comme c'est déjà en prévision en tout cas sur le média radio. Donc garder une étude de référence, on va dire, traditionnelle telle que le Mediamat, mais aussi avoir un pager qui permet de restituer une audience, quel que soit le device sur lequel on regarde le contenu télévision, et quel que soit le lieu, puisque c'est vrai que là, encore une fois, dans des cafés, dans des commerces, etc., on ne mesure pas cette audience.
Et Pascal Le Chevalier.
Alors, effectivement, explosion des écrans. Puis il y a un autre point qu'il faut prendre en considération dans cette histoire, c'est le chiffre d'affaires publicitaire global. Aujourd'hui, dans tous les grands pays du monde, Angleterre et États-Unis principalement, la publicité sur Internet a dépassé la publicité télévisuelle. Les courbes se sont croisées. Et ce qui veut dire aussi que pour le groupe TF1, il faut faire très très attention à ne pas détruire cet écran qui est la chaîne et qui est le premier vecteur de diffusion de la publicité télévisuelle en France, avec ces interruptions qui, là, pour le coup, peuvent inquiéter les annonceurs, qui sont aussi des gens très près de leur argent, on en a parlé tout à l'heure, et eux, un sou est aussi un sou. Et donc, il y a un très très grand danger. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau de l'Europe, il y a tout un tas de discussions, justement, pour regarder ce que font les Google, enfin les GAFA, qui sont en train de ronger et de grignoter la part de marché publicitaire. Et ça tombe aussi à un très mauvais moment, parce que ça va fragiliser la chaîne, et elle va devoir très très vite reprendre l'initiative. C'est pour ça qu'ils ont besoin de signer rapidement.
Ah d'accord, Erwan Lenoine ?
Globalement d'accord, mais il y a un rapport de l'autorité de la concurrence qui a été publié aujourd'hui justement sur la publicité en ligne. Je crois que les GAFA grignotent les parts de marché, mais en même temps ils ouvrent un nouveau marché. Donc c'est pas un pur effet de renversement de la télé vers Internet. Ils ont ouvert un nouveau marché qui attire effectivement des capitaux et des investissements parce que les annonceurs n'ont pas des fonds extensibles, mais ça a été globalement un élargissement du marché et de la concurrence.
Ouais, et juste, Erwan Lenoine, vous, le consultant en stratégie dans le cabinet Altermain, professeur en droit de la concurrence, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça illustre, ce bras de fer, TF1 versus les opérateurs, dans les rapports entre clients et fournisseurs, hein, voilà. Dépendance, au-delà évidemment du monde de la télé. Hein.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant, peut-être mon analyse est erronée, c'est que ça, c'est pas tant entre fournisseurs et entre amont et aval que dans une... C'est révélateur de toute industrie où il y a un intermédiaire entre le producteur et le client final. Donc c'est vrai de la distribution alimentaire, je pense que c'est vrai de toutes les plateformes aujourd'hui en ligne où celui qui contrôle et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, celui qui contrôle l'accès au client est celui qui est en position de force. Et ce qui se passe de plus en plus avec le développement d'Internet, c'est que vous avez des plateformes qui viennent et qui se mettent entre le client et le fournisseur de services, de biens, et qui prennent progressivement le contrôle de cette relation entre le client, avec le client. C'est vrai de toutes les plateformes qui vous proposent des hôtels, c'est vrai des plateformes qui vous proposent des locations de voitures, de celles qui vous proposent d'acheter votre nourriture en ligne. Tout ça, c'est aujourd'hui une tendance qui est très intéressante, qui fait bouger la valeur, fait bouger entre acteurs, fait bouger aussi le contrôle de cette valeur. Et de manière générale, effectivement, celui qui contrôle la donnée est en position de force et les relations avec ceux qui sont en amont sont peuvent être bonnes, mais sont jamais non plus parfaites parce que à la fois celui qui distribue a besoin du bien qui vient en amont, mais pour avoir une offre pour enrichir son offre, mais en même temps c'est celui qui est en haut qui a absolument besoin de l'intermédiaire pour exister.
Juste un mot, le mot de la fin, Pascal Le Chevalier, sur ce sujet.
Aujourd'hui, faut pas oublier que dans ce nouveau rapport de force qui existe, les distributeurs, ces fameux fournisseurs d'accès Internet, investissent des milliards dans les interfaces, dans les box, dans les réseaux. Que ce soit sur de l'ADSL ou aujourd'hui en ce moment sur la fibre, et que ça aussi ce sont des investissements qui permettent aux chaînes de télévision d'aller au plus proche du téléspectateur. Et ça fait aussi partie de l'économie, d'où cette discussion extrêmement tendue, parce que chacun a ses arguments en disant mais moi j'investis des milliards dans le réseau, toi tu payes des contenus,
oui.
Et à la fin le téléspectateur veut toujours plus pour moins cher.
Allez, le mot définitif de la fin.
Un dernier mot, mais ça serait ouvrir un autre débat, c'est que ça suppose aussi de s'interroger sur la réglementation et la régulation du secteur de la télévision et des médias en France. Est-ce qu'elle est toujours adaptée quand on a justement cette explosion de concurrence, ces nouvelles modes de consommation, ces nouveaux opérateurs?
Non, elle n'est pas adaptée, ça c'est sûr. et puis en même temps, c'est bien d'avoir des tuyaux, mais s'il n'y a pas un bon contenu, et si on ne finance pas ce bon contenu, ça ne sert à rien d'avoir des tuyaux.
Alors, c'était l'ultime mot de la fin, signé Isabelle Vignon, directrice expertise média chez Dentsu Aegis Network. Merci à vous. Merci Pascal Le Chevalier, président de WhatsApp, une agence conseil médias numériques qui effectue une veille du marché et des acteurs et des nouveaux médias numériques. Erwan Lenoine, consultant en stratégie dans le cabinet Altermain, professeur en droit de la concurrence à Sciences Po. Puis on était aussi précédemment avec Simon Tenenbaum de FM Business, et Régis Ravanas, le directeur général adjoint du groupe TF1 en charge de la publicité, de la diversification. On revient très très vite avec les décodeurs de l'écho, bien entendu, sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.